Welcome to Greendale's Drug Awareness Show!
I finally have a case of lupus.
Lester, is this what you want?
Mr. Buckland, we are the sexual revolution.
What is up with the sex? It's all anybody thinks about anymore. Sex, sex, sex. What is the big deal?
Call it. Are you right?
Yeah.
Yeah?
Are we having fun yet?
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, votre émission qui vous parle série télévisée avec Aurore à mes côtés. Bonsoir.
Bonsoir Ben.
Bienvenue pour le 29e épisode de la saison 3 de cette émission. On va, comme chaque semaine, débuter par une petite revue des séries assez récentes, revues et corrigées par Aurore.
Corrigées.
Bah, en gros, tu les tacles ou tu les tacles pas.
Oui. Alors, on va commencer par une comédie. Une comédie anglaise proposée par Channel 4 qui s'appelle Flowers. Et qui nous raconte l'histoire d'une famille anglaise, donc assez loufoque, on peut s'y attendre, dans laquelle nous avons un père créateur de livres pour enfants dépressifs et au bord du suicide. D'ailleurs, la scène introductive de la série, il essaie de se pendre à un arbre, malheureusement pour lui, la branche casse et donc il rentre chez lui avec sa corde. Ça commence déjà bien. Il est affublé d'une femme totalement folle, je crois qu'on peut le dire, qui est jouée par... Ça y est, j'ai encore oublié son nom. L'actrice qui joue notamment dans Broadchurch.
Oh là là, compliqué aujourd'hui.
Oui, le nom et moi, ça fait trois. Donc, voilà. Ils ont tous deux des jumeaux, un garçon et une fille, qui sont déjà bien avancés en âge. Hein. Je ne sais pas quel âge ils ont exactement, mais ce sont plutôt des adultes et qui vivent à domicile, vu que l'un est un inventeur à nouveau pas extrêmement fut-fut, vu que aucune de ses inventions ne paraît véritablement très pertinente. Hein? Et une fille qui est plutôt une sorte d'artiste, musicienne, mais... Bon, assez aussi dépressive, un peu comme son père. Bon, bref, autour de ça, on a quelques voisins, tous aussi tarés que la famille en question. On a l'illustrateur des livres pour enfants, donc du père, qui est une sorte de jeune japonais qui a débarqué... un jour chez eux et qui s'est imposé presque dans leur vie de famille, qui a décidé de rester avec eux. Bon, à partir de ce principe de départ, ça va complètement partir en vrille, cette histoire, vu que le plus gros problème dans le pilote, ça va être de cacher la corde. Vu que il n'a pas réussi à se pendre, le pauvre homme. Donc sa mère trouve la corde, mère qui vit aussi sous leur toit, et en essayant de la cacher, elle va tomber et se retrouver donc à l'hôpital. Et du coup, comme ils étaient en train de faire une soirée avec quelques amis pour leur anniversaire de mariage. Dont le type ne veut absolument pas, mais qui lui est plus ou moins imposé de force par sa femme, eh bien, tout le monde se retrouve embarqué avec eux à l'hôpital. Enfin, c'est très, très... assez hystérique, comme autant dans la manière de filmer que dans le rythme, dans le jeu des acteurs et tout, un peu étouffant, comme ça, on se sent oppressé. quasiment, et ça dure quand même pendant les 4 premiers épisodes où ça va crescendo. 5e épisode est un peu différent, on sent qu'il commence à se mettre malgré tout en place un semblant d'humanité de ces personnages qui nous permettrait quand même de nous y rattacher. Donc, mais il faut quand même attendre quelques épisodes avant de commencer à y voir quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai que même si le tout début peut être très cocasse, pittoresque, et donc se dire « Ah, une série anglaise bien bien barrée comme on les aime », assez vite ça devient un peu crispant quand même. Et le fait qu'il faille attendre jusqu'à l'épisode 5 pour que ça redevienne un petit peu supportable est un peu embêtant. Maintenant, bon, à voir la suite, peut-être que ça deviendra vraiment bien, mais peut-être aussi, comme c'est une série anglaise, qu'il n'y aura pas tant d'épisodes que ça en plus. Il suffit qu'il n'y ait que 6 épisodes, j'ai pas vérifié combien il devait y en avoir en tout, mais enfin... Si c'était le cas, ce serait quand même un petit peu embêtant, quoi.
Bien.
Voilà, donc ça, c'est pour la première série. Deuxième série, il s'agit à nouveau d'une série anglaise, cette fois-ci de la BBC One, et ça s'appelle The A-Word. C'est une mini-série qui nous présente à nouveau une famille, à nouveau dans une campagne un peu reculée de l'Angleterre, mais qui est beaucoup moins barré, beaucoup plus réaliste, et qui nous propose de suivre les réactions de chacun des membres de cette famille lors de la découverte d'un diagnostic d'autisme pour le plus jeune membre de cette famille, qui est un petit garçon de 5 ans. Alors, j'en ai vu 3 épisodes pour le moment. Là, pour sûr, il y en a 6 en tout, donc j'ai vu la moitié. Et c'est vraiment, vraiment bien fait, vraiment assez touchant. Aussi bien vu dans la manière dont, finalement, tous les dysfonctionnements de la famille nous montrent à quel point l'incapacité de communiquer est loin d'être l'apanage du seul... personnage marqué par ce fameux A du mot autisme. Tous les autres dysfonctionnent tout autant, si ce n'est plus. Et donc, tout va se cristalliser finalement autour de cet enfant qui en plus, ce qui apporte une petite touche quand même assez agréable aussi à la série, est... probablement de type Asperger, je ne sais pas comment on le dit, bref, mais donc un autiste un peu surdoué qui connaît par cœur toutes les chansons,
dates, les chansons, les auteurs, oui, c'est ça.
Rock anglaise, des, je ne sais pas de quelles années d'ailleurs, j'imagine des années 90 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est son père qui lui a transmis tout ça. Et donc, il y a une bande originale vraiment, vraiment très, très agréable aussi. Et ça ne peut qu'apporter un argument supplémentaire pour suivre cette petite série. La seule crainte que j'aurais éventuellement après 3 épisodes... c'est que certains personnages soient un peu plus avantagés que d'autres et que donc le point de vue soit un petit peu biaisé, que parfois certains comportements et certains personnages soient jugés de manière beaucoup plus dure que d'autres qui n'ont pas le même comportement, mais parce que simplement leur personnalité est différente. Et donc ce serait dommage que ça perde d'un petit peu de sa nuance à cause de ça, mais jusqu'à présent, malgré tout, c'était relativement bien mené, donc j'ai quand même confiance dans le fait que ça va pas trop tomber là-dedans. Voilà.
Bien mené et assez complet, hein, c'est assez vaste comme vision de la chose.
Oui, oui.
On y amène beaucoup d'aspects, c'est bien joué, c'est naturel, ça a l'air assez réaliste.
Oui, oui, tout à fait. C'est à la fois très agréable à suivre et à la fois, on a l'impression d'être vraiment dans cette famille avec eux et de vivre ce moment un peu particulier avec eux aussi. Donc voilà.
Bien.
Enfin, pour terminer, je vais parler de une série sci-fi, cette fois-ci, qui s'appelle Hunters. Et cette fois-ci, je n'en ai vu qu'un seul épisode. Ça nous parle de quoi ? Ben justement, c'est un peu compliqué, mais apparemment, il y aurait une unité du FBI qui serait une unité non pas antiterroriste, mais exoterroriste. Donc qui s'occuperait de traquer des terroristes aliens,
ah oui.
qui viendraient donc menacer la sécurité de l'État.
Les salauds.
Voilà, ils sont parmi nous depuis des années et ça y est, là ils passent à l'attaque.
Ouais,
hein,
là ils terrorisent maintenant.
Ils terrorisent maintenant. Et donc.
On n'avait pas assez avec les humains entre eux.
Apparemment pas, je ne sais pas. Serait-ce une métaphore? Je ne sais pas, tu sais.
Les terroristes sont des aliens. Je sais pas. C'est quoi ta métaphore ?
Oui, c'est peut-être le message, okay. Le message subliminal qu'il
Ou
fallait...
Envoyons-les sur une autre planète, un truc comme ça.
Soit, donc, on a donc cette équipe qui mène donc des opérations militaires assez musclées, puisque ce sont des gens qui sont très dangereux, les armes traditionnelles ne fonctionnent pas sur eux. Par contre, ils ont des armes un peu particulières qui fonctionnent, je crois, avec les ondes sonores, quelque chose comme ça. Et ça les tue direct, mais malheureusement, ça tue les humains aussi. Donc, c'est un peu le foutoir.
Ça, déjà, le concept, bon.
Ils ressemblent à des humains, mais on assiste à des autopsies où c'est vraiment à l'intérieur, c'est totalement dégueu et tout. Enfin... et pas forcément toujours hyper bien fait. Il y a un moment où pour montrer aux gens que c'est pas un fake, ils montrent l'intérieur des entrailles de l'alien au nouveau venu, puisqu'il va y avoir un nouveau venu dans l'équipe, et à ce moment-là t'as vraiment l'impression que c'est un fake, encore plus que s'il ne lui avait pas montré. Mais bon, soit...
Et donc, en gros, tu la vends pas bien, cette série.
Mais en gros, j'en ai vu un épisode et c'est vrai que... Bon, je vais pas te mentir, c'est pas trop mon type de série non plus, mais c'est vrai que ça me donne pas hyper envie de continuer, quoi.
T'es même pas curieuse pour un petit deuxième si...
Même pas,
oui.
Non.
Non, ok. Mais pourquoi tu en parles alors? Donc, en gros, il faut pas y aller.
Non, si vous aimez les histoires un petit peu science-fiction, un petit peu action aussi, pourquoi pas, c'est pas si mal fait que ça, franchement, j'ai vu bien pire, simplement, c'est pas non plus la découverte du siècle, quoi.
Voilà, je te propose de marquer un point final sur la description des séries que tu as visionnées cette semaine ici.
Oui.
Et puis, on va faire une petite pause musicale.
Oui, et je te propose justement d'écouter une des musiques entendues dans Hunters. Hein. On va l'utiliser vite puisqu'on n'en parlera plus jamais probablement dans cette émission. Ça s'appelle Made of Orleans et c'est proposé par Orchestral Manoeuvre of the Dark.
In the dark, merci.
In the dark, pardon.
Thank you.
Ça et folie. Continue, on rentre dans le vif du sujet. Justement, le sujet, quel est-il, Aurore, aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, on va se pencher sur la question de savoir si, finalement, les séries, c'est un art collectif ou bien plutôt un art individuel. En tout cas, on va essayer de démêler entre ces deux pôles-là où se situe exactement la série télévisée.
Ok, voilà, tu t'es encore bien cassé la tête pour trouver un sujet intéressant
mais
aujourd'hui.
Mais pas du tout.
Mais non. Alors,
on va commencer tout de suite, mais tout simplement par le contenu des séries. Donc, la manière dont les séries nous représentent le monde et finalement, est-ce que les séries nous représentent davantage des enjeux individuels ou des enjeux collectifs, nous représentent tout simplement à l'image davantage des collectifs avec beaucoup de personnages sur l'écran ou bien au contraire des plans très rapprochés sur des individus plutôt isolés. Bon, poser la question, c'est déjà commencer à y répondre, hein, il faut quand même bien l'admettre puisque... On l'a déjà dit souvent ici, et puis tout simplement, c'est pas très compliqué de le constater, notamment pour des questions pratiques. Hein. La télévision, c'est quand même un beaucoup plus petit écran que le cinéma. Les moyens sont pas infinis. Pendant très longtemps, et pour beaucoup de séries, c'est encore le cas, mais comme les moyens sont limités, la plupart des scènes sont faites dans des studios, en intérieur, donc dans des endroits très, très limités au niveau de l'espace. Et donc, un casting, ça coûte cher aussi, des figurants, ça coûte cher. Enfin bref, tout ça fait que forcément, la tendance naturelle, purement même économique, va vouloir qu'on ait plutôt... des séries qui se resserrent sur quelques individus plutôt que sur des collectifs au sens très large.
Oui, d'accord, mais on reste plusieurs quand même, on n'est pas seul.
On n'est évidemment pas seul, tu as raison. Mais ceci dit, même en dehors donc de cet aspect très, très pratique, finalement, on peut aussi observer qu'il y a quand même... une bonne partie de la fiction télévisée qui est occupée par des héros solitaires, hein, des héros qui, pour une raison ou pour une autre, doivent plus ou moins s'isoler du reste de leurs contemporains pour mener leur quête, avec plus ou moins d'aide, mais généralement... Il reste quand même la figure centrale autour de laquelle vont graviter quelques personnages secondaires éventuellement. Bon, ça n'est évidemment pas le seul type de série qui existe, mais il en existe quand même une bonne partie, une partie significative qui fonctionne sur ce principe-là. Et puis même au niveau... des enjeux qui vont être portés par l'histoire, par l'intrigue. Mais les enjeux, ça va être quand même assez souvent des enjeux individuels, même lorsque les enjeux peuvent être collectifs, comme je pense par exemple à une nouveauté que j'avais présentée la semaine passée, je crois, Containment, dans lequel on a un risque d'épidémie qui pourrait dévaster l'ensemble de la population tellement le virus est mortel. Même dans ces cas-là, on nous présente quand même l'enjeu à travers des trajectoires individuelles, des gens qui, de manière plus personnelle, vont être touchés par ce risque-là et par la perte d'un ou plusieurs de leurs proches ou le risque de perdre un ou plusieurs de leurs proches. À chaque fois, c'est comme ça que le drame va être construit. Bien sûr, il y a toujours l'idée « on va sauver le monde », etc. Mais en même temps, on sauve d'abord son petit frère, sa petite sœur, sa femme, ses enfants, qui justement se trouvent dans, au cœur du cyclone, quoi. Hein.
Je comprends bien, mais bon, c'est pas spécifique à la série télé.
Non,
un film, on va réagir pareil, dans un bouquin aussi.
Oui, enfin...
J'ai l'impression.
Il y a évidemment, autant dans la fiction cinéma que dans la fiction littéraire, en effet, la possibilité de fonctionner comme ça. Mais c'est pas non plus une obligation.
Non, mais en série télé non plus.
Non, voilà. C'est pas une obligation en série télé non plus. Je dis juste que c'est une partie de la fiction qui fonctionne comme ça. Donc, bon, voilà, ça c'est le constat de départ qui pencherait plutôt du côté de dire, ben, finalement, oui, c'est vrai que la série, c'est plus un média qui va mettre en avant de l'individu. Et pourquoi ? Ben, parce que déjà, quand les enjeux sont individuels, ben, ça facilite grandement la compréhension. Pour le téléspectateur qui n'est pas forcément en train de vouloir se casser la tête avec d'énormes enjeux mondiaux, globaux, etc. Donc, en lui expliquant que si on n'arrive pas à empêcher l'épidémie, ta femme va pas s'en sortir, forcément, ça... C'est beaucoup plus facile, quelque part, à s'attacher, à comprendre et à éventuellement vouloir continuer à voir ce qui va se passer. Mm-hmm. Les enjeux sont trop abstraits et malheureusement, parfois, le collectif est un peu abstrait. Eh bien, on en arrive à décrocher parce qu'on ne comprend pas et qu'on voit pas l'intérêt. De même, ça permet éventuellement de davantage pouvoir s'identifier aux problématiques et aux personnages qui nous sont montrés. Si on nous montre une foule énorme qui est en quête de quelque chose, ce sera beaucoup moins facile de s'identifier à eux et vouloir qu'ils y arrivent que si on nous montre quelques personnages isolés à l'intérieur de cette foule qui ont chacun leurs objectifs plus intimes finalement que la globalité, la masse qui pourrait être concernée, quoi. Donc voilà, ça c'est une chose, mais en même temps, au niveau de la compréhension, par exemple, on peut se dire, oui, c'est vrai que nous présenter des figures plus individualisées, c'est plus facile à comprendre, mais en même temps, on peut aussi considérer que ces individus ne sont que des incarnations d'enjeux qui, eux, peuvent être des enjeux plus collectifs. Et d'ailleurs, j'ai déjà expliqué ici comment on pouvait considérer parfois les héros comme étant les porteurs de problématiques et d'enjeux qui traversent la société du moment. Donc, il y a à l'intérieur de la figure du héros cette tension perpétuelle entre l'universel et le singulier qui peut être exploré. Donc oui, on nous présente un visage en particulier, mais ce visage-là, finalement, est censé nous parler à tous et donc représente bien plus que cette simple personne. De même, au niveau de l'identification, j'avais expliqué quand on avait parlé justement aussi des héros, à quel point l'identification souvent pouvait se faire notamment à travers une sorte d'identification systémique où je me retrouve plutôt dans ce personnage-là parce que sa dynamique avec les autres ressemble plus à ce que moi je vis. C'est pas tellement que lui me ressemble personnellement, c'est pas tellement que ce que lui vit va me ressembler davantage, mais c'est que parmi ce qui m'est offert comme possibilité d'identification, c'est celui qui éventuellement me ressemblera le plus. Et donc on a une identité qui est entièrement construite à travers la fiction. Mais quelque part, si la fiction nous permet à chacun d'entre nous de construire notre identité, ben on peut estimer que c'est quelque chose d'assez collectif qui s'offre à nous pour construire ces identités individuelles. Donc la tension entre individuel et collectif est toujours présente à ce niveau-là aussi. Enfin, ben, on a dit aussi régulièrement dans cette émission qu'on avait une tendance, à travers l'idée qu'on peut avoir aujourd'hui du réalisme, à représenter de plus en plus l'intime, le quotidien, la psychologie des personnages. On essaie d'aller vraiment au plus fin de ce qui peut constituer la complexité des individus. Mais en même temps, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que pour le moment, le réalisme, c'est plutôt ça pour nous, que le collectif est totalement absent. Déjà, mais on peut évidemment rappeler qu'il y a un certain nombre de séries dans lesquelles on nous présente des héros multiples et aussi des équipes. Une série de personnages qui sont censés travailler ensemble pour un même but. C'est même une autre des grosses catégories qu'on pourrait faire parmi les séries. Il y a celle avec les héros solitaires, mais il y a celle aussi qui représente toute une équipe qui ont un même objectif, bon, qui parfois peuvent connaître de grosses tensions, voire des tensions insurmontable, mais il n'empêche qu'on nous représente quand même souvent aussi ça. D'autres séries, davantage ici dans les comédies, mais pas que, ont quand même pour fonction principalement de nous rappeler tout le bien que ça peut être de vivre en famille, entre amis, en couple, etc. Donc le rappel de ce que c'est d'être plus que nous tout seuls est constamment fait par les séries. Et puis il y a beaucoup de questions politiques, sociales, etc. qui sont aussi portées par les séries, même lorsque elles ont par exemple un héros solitaire, par exemple un super-héros. Les séries de super-héros sont quand même très largement porteuses de questions politiques et sociales, même si ça c'est représenté à travers une figure singulière d'un héros en particulier. Donc voilà, pour finir, je rappellerai simplement que ben, malgré tout, vu que la série commence à avoir dans certains médias, en tout cas, plus de moyens, il y a certaines séries qui cessaient aux représentations d'ensemble. Hein. On peut penser aux grandes batailles qui ont pu être représentées dans Game of Thrones, ou bien les tentatives aussi, peut-être un peu moins réussies, mais malgré tout, qui peuvent avoir été faites dans The Walking Dead dernièrement, où on a quand même des représentations de grandes batailles avec énormément de personnages et tout. Donc on a vraiment des représentations d'ensemble. Mais en même temps, que ce soit dans The Walking Dead ou dans Game of Thrones principalement, les enjeux restent malgré tout toujours très individualisés. Donc la tension n'est jamais réglée, on est toujours entre ces deux pôles-là.
Bien.
Voilà,
on l'a compris, c'est assez complexe, ce n'est pas marqué vraiment d'un camp ou de l'autre.
Ben non.
Voilà, mais bon, tu as essayé de nous expliquer ça de la manière la plus efficace possible. Petite pause musicale.
Oui, on va s'écouter Major Tom de Peter Schilling, entendu dernièrement dans The Americans et qui sert aussi de générique à Deutschland 83.
Bestimmt das Handeln, man verlässt die Blinds auf den anderen, jeder weiß genau. uns Kraft, ist überwunden, alles läuft perfekt. Schon seit Stunden wissenschaftliche Experimente, doch was nützt denn die am Ende denkt sich Major Tom.
De série folie, avec le sujet du jour, Aurore.
Alors, on continue donc, cette fois-ci, on va se déplacer depuis le contenu jusqu'à la création, puisque on a tous plus ou moins ancré dans la tête et de plus en plus au fur et à mesure que la série commence à avoir... une certaine légitimité artistique, l'idée que finalement chaque série aurait son créateur qui serait aux manettes et qui en assurerait la cohérence, l'intelligence, le propos, etc. Or, quand on s'intéresse un petit peu à la manière dont ça fonctionne vraiment, à la manière dont ce secteur travaille et emploie des créateurs, des écrivains, etc., ben on se rend compte que on est quand même très 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 loin d'un modèle du créateur isolé tel qu'on peut se l'imaginer dans notre imaginaire d'Épinal, de l'artiste maudit et solitaire, puisque c'est quand même une entreprise qui exige de grosses équipes, mmh. autant au niveau de la création que de la production. Et donc, même pour les séries dont finalement on a tous en tête le nom des créateurs ou des showrunners parce qu'ils sont énormément mis en avant et qu'on, même pour un certain nombre d'entre elles, on peut constater une certaine cohérence d'une œuvre à l'autre. Hein. Les plus grands créateurs peuvent quand même se reconnaître comme ça. Mais même dans ces cas-là, il faut avoir conscience à quel point, finalement, le travail de ces personnes-là se fait tout autant dans la vision qu'ils peuvent avoir de ce qu'ils veulent faire que du compromis qu'ils vont devoir trouver avec le fait qu'ils sont évidemment pas capables de tout faire tout seuls, le fait que ils doivent répondre aux exigences de certains diffuseurs en fonction de la chaîne qui leur passe commande, les exigences ne seront pas les mêmes, les restrictions ne seront pas les mêmes, les budgets ne seront pas les mêmes. Et donc, en vérité, on peut se demander si c'est totalement un art ou bien si c'est plus un savoir-faire. C'est vrai qu'on a...
C'est une sorte d'expertise dans la matière, oui.
Oui, voilà.
Fournisseur de services, presque.
Mais alors, il faut admettre que certains arrivent particulièrement bien à maintenir, malgré tout, une sorte de propos, une sorte de continuité, une sorte de...
Même signature.
De vision au fur et à mesure de leurs différentes créations. Mmh. Mais malgré tout, la manière dont il faut considérer leur travail... est probablement beaucoup moins solitaire qu'on peut l'imaginer a priori. On a tendance à dire ça, c'est la série de Aaron Sorkin, la série de David Simon, la série de Joss Whedon, etc., etc. Et oui, évidemment, mais surtout, c'est la série dans laquelle ces différents personnages-là ont réussi à s'adjoindre les services des personnes en qui elles avaient le plus confiance pour porter leur vision des choses et qui malgré tout ont probablement dû faire un grand nombre de compromis. Et puis au final, il y a le résultat qui en sort. Et ce qui est assez étonnant, c'est que parfois... Mais le résultat est tellement parfait qu'on a l'impression que forcément ça peut être que la vision d'une seule personne. Dès que c'est un travail collectif, c'est un peu le foutoir, on ne comprend pas comment il peut y avoir une cohérence aussi parfaite, comment on arrive autant à porter une voix singulière à travers un travail qui regroupe autant de personnes différentes, quoi, qui ont en plus toutes des objectifs assez différents aussi. L'objectif de celui qui écrit ne sera pas le même objectif que celui qui réalise, etc., etc. Chacun a ses limites, ses envies aussi, et chacun essaie un petit peu de jouer des coudes pour obtenir ce qu'il veut. Alors, dans certaines séries, pourquoi ça reste probablement un mystère, en tout cas pour moi. Malgré tout, il y a une sorte de petit miracle qui arrive et qui permet l'émergence d'une sorte de vraie vision, mais une vision qui serait moins individuelle qu'on ne se l'imagine. Et finalement... serait un propos qui transcende un petit peu tous ces enjeux et toutes ces petites envies individuelles pour quelque chose de plus. Et donc, on pourrait éventuellement estimer que les structures, le secteur du business là où sont produits ces séries-là favorisent, dans certains cas, l'émergence de ce genre de petits miracles-là. Et c'est pour ça aussi, alors tu vas me dire à nouveau, c'est le cas aussi pour certains films, évidemment, mais c'est pour ça aussi que... Les séries me passionnent autant, c'est la manière dont on peut voir comme ça émerger quelque chose qui pour moi tient toujours un peu du miracle.
Ah, c'est parfois un sacré coup de bol, quoi. Tout se met en place.
Oui, forcément, il faut pas diminuer l'immense travail que doivent faire certains showrunners qui sont quasiment, d'ailleurs, certains les considèrent comme ça, sans y mettre autant de forme que moi, des sortes de génies qui arrivent à concilier le tout pour malgré tout maintenir un propos dans ce qu'ils veulent faire. Hein. Mais c'est... Oui, je trouve que c'est vraiment intéressant de se pencher sur la manière dont ça fonctionne aussi pour se rendre compte à quel point finalement la série télévisée en tant que création est elle-même une sorte de compromis magique du collectif qui arrive à fournir une voix véritablement singulière.
Waouh. Ben voilà.
Ben oui.
On mêle les deux là.
Ben voilà.
Est-ce que tu en as déjà fini là ?
Mais oui.
Ah ben très bien, très bien. Allons-y. Musique.
Alors la musique, ce sera I Am a Man of Constant Sorrow de Carter Stanley, entendu dans Fargo.
Thank you.
la dernière partie de cette émission de Série Folie avec les séries télévisées, art collectif ou individuel, la grande question du jour qui n'est pas vraiment tranchée. Hein.
Mais non, mais c'est justement parce qu'on est toutes dans la nuance que ben c'est intéressant de s'y pencher. Donc voilà, on va terminer cette émission en s'intéressant cette fois-ci davantage à la réception du message, puisqu'on s'est intéressé à ce qui nous était montré, on s'est intéressé à la manière dont c'était créé, et puis maintenant, ben, comment est-ce que c'est reçu ? Alors on a un petit peu à nouveau, on balance entre deux choses qui sont d'un côté l'idée selon laquelle ben, ce serait une grosse machine idéologique qui matraquerait son message sur les foules pour avoir une influence sur les masses abruties. Hein. Ça, ce serait une première manière de présenter les choses. Donc, très, très collective, finalement, dans la manière de voir l'influence que peuvent avoir les séries et leurs messages sur le public. Et puis l'idée que, malgré tout, la réception se fait de manière très solitaire, chacun restant globalement chez soi, puisque ben, ça passe par la télévision principalement, et que, malgré tout, on peut constater que même nous, lorsqu'on regarde des séries, on n'est pas forcément à 100% obnubilé par ce qu'il s'y passe, en train de perdre tout esprit critique. Toutes les études, toutes les enquêtes sur la réception montrent au contraire à quel point le quant à soi du public peut être malgré tout assez important. Et certaines séries peuvent être regardées d'ailleurs avec plus ou moins d'ironie ou plus ou moins de décalage par rapport au message premier que l'on pourrait croire véhiculé. Donc il y a malgré tout au niveau de la réception une assez grande liberté du public de se la réapproprier à sa manière et d'en faire sa série à soi pour une raison auquel on n'aurait pas forcément pensé et auquel les créateurs n'auraient probablement pas pensé eux-mêmes. De même au niveau de la réception, bon d'accord c'est une réception solitaire mais en même temps c'est une réception qui peut aussi se faire premièrement en groupe, on a insisté je crois à l'émission passée me semble-t-il sur le fait que malgré tout ou bien il y a un peu plus longtemps d'ailleurs que malgré tout ben, les séries télévisées nous poussaient parfois à interagir beaucoup sur les réseaux sociaux et de plus en plus à nous sentir appartenir à une sorte de communauté de fans, etc., à entretenir des discussions avec les gens qui nous entourent autour de ces sujets-là. Donc, bon, à nouveau, influence collective, influence individuelle, réception collective ou réception individuelle, ben on se trouve un petit peu entre les deux, hein, mon capitaine, que dirait l'autre. Donc voilà. Malgré tout, je crois qu'on peut reconnaître qu'il y a une vraie fonction sociale à la série télévisée, mais aux médias en particulier, et notamment aux médias télévisés, puisque, pour ce qu'il est des séries, au minimum, c'est un moyen notamment de célébration sociale, célébration d'un mode de vie, c'est aussi un moyen pour une société de se raconter elle-même en racontant des histoires sur des personnages qui en feraient partie, ben elle se raconte elle-même et elle perpétue ainsi son identité, elle rappelle son identité, etc. Donc on pourrait voir chaque épisode comme une sorte de messe dans laquelle on fait un rituel de confirmation d'appartenance à cette société-ci, hein, tu vois, un petit peu comme on a toujours présenté le JT comme étant la grand-messe des sociétés médiatiques, mais on pourrait considérer que de manière un petit peu plus morcellisée probablement au niveau des publics, certaines séries peuvent avoir cette même fonction de rituel comme ça, où chaque semaine on va rechercher un petit bout de cette identité, de cette appartenance, de cette manière qu'a la société de se raconter et dans laquelle on trouve ce qui nous manque pour continuer à nous sentir appartenir à cette même société qu'on occupe avec plein de gens avec qui on n'interagit pas toujours forcément. Donc voilà, il y a aussi une cohérence de la fiction avec son époque qui en reflète donc évidemment les évidences idéologiques, tous les présupposés idéologiques d'une époque sont véhiculés. Et il faut bien avouer que ben, ces présupposés idéologiques, même si on peut à chaque fois, c'est extrêmement mouvant, c'est en changement perpétuel, et donc il faut jamais estimer ça comme étant quelque chose de figé, mais malgré tout, ce qui nous est présenté dans la télévision, ce sont toujours les évidences d'une époque, oui, mais à travers le point de vue de ceux qui ont créé ces programmes-là, et donc probablement une partie un petit peu plus favorisée et donc dominante de la population. Et donc le décalage entre la population et les séries qui sont censées lui représenter est toujours malgré tout un petit peu présent. À la fois les séries nous aident à appartenir à la même société, et à la fois il y a malgré tout un décalage qui reste et qui explique probablement le quant à soi dont je parlais tout à l'heure lors de la réception de certaines séries. Voilà, donc c'est un outil collectif qui permet à la société d'interroger ses normes et ses fondements, mais en même temps, il faut jamais oublier que c'est aussi la création d'une partie de la société qui s'impose un petit peu aux autres, tout en restant ouverte constamment au changement. Et donc, rien n'est jamais figé dans ce sujet-ci.
Bien. Vive la série télévisée, en gros.
Oui, si tu veux.
Quelle belle invention. Merci à toi, Aurore. On en a terminé pour aujourd'hui. Je te propose de nous quitter en musique dans quelques instants, juste après avoir rappelé que cette émission sera podcastée dans les prochains jours, les prochaines heures, via le site internet www.seriefolie.be, site consacré évidemment à cette belle émission et notamment aussi à de nombreux articles que tu as déjà publiés sur ce site internet. Les réseaux sociaux feront le relais également. Merci de nous avoir choisi une nouvelle fois, de nous avoir écouté. La fin de cette émission sera marquée par une pause musicale.
Oui, comme toujours, et cette fois-ci, il s'agit de Poison de Belle Biv Devou, entendu dans Silicon Valley.
Merci à toi, Aurore. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Yeah, Spider-Man and freezing, full effect.
You ready, Ron?
I'm ready.
You ready, Dave?
I'm ready, Slick, are you?
Oh yeah, take it down.
Girl, I must warn you, I sense something strange in my mind. Yo, situation is
serious.
Let's cure it cause we're running out of time.
Tell them, Rick.
It's all so relationships they seem from the start. It's all so
deadly
when love is not together from the heart. Check it out.
It's driving me out of my mind. That's why it's hard for me to find. Can't get it out of my head. Miss her, kiss her, love
wrong
her.
Wrong move, you're dead.
That girl is
poison.
for a mellow fellow like DeVoe getting paid late. So better lay low, scheming on Hoff's money and the whole shit. The low pro ho should be cut like an afro. So what you saying, huh? She's winning to you, but I know she's a loser. How did you know? Me and the crew used to do her.
Poison. You never trust a big button to smile.